Casanova, Angélique. Nous étions vers la fin de novembre lorsqu'un matin le prétendu d'Angélique vint me faire visite avec l'avocat et il m'invita à vouloir aller passer 24 heures à Tivoli avec toute la société que j'avais traitée à Frascati. J'acceptai avec plaisir car depuis la Sainte-Ursule je m'étais jamais trouvé seul avec Lucrezia. Je lui promis de me rendre chez Donna Cecilia à la pointe du jour, dans ma même voiture. Il fallait partir de très bonne heure, parce que Tivoli est à 16 miles de Rome, et que la quantité de belles choses qu'il y avait à voir demandait beaucoup de temps. Devant découcher, j'en demandai la permission au cardinal lui-même, qui, ayant entendu avec qui je ferais cette partie, me dit que je faisais fort bien de saisir l'occasion de voir ce bel endroit en si belle compagnie. Au point du jour, je me trouvais dans mon vis-à-vis à quatre chevaux à la porte de Donna Cecilia qui, comme les autres fois, fut mon partage. Cette charmante veuve, malgré la pureté de ses mœurs, était ravi que j'aimasse sa fille. Toute la famille était dans un phaéton à six places que Don Francesco avait loué. À 7h30, nous fîmes halte dans un endroit où Don Francesco nous fit trouver un délicieux déjeuner qui, devant nous tenir lieu de dîner, fut parfaitement fêté par chacun. À Tivoli, nous ne pouvions avoir que le temps de souper. Après déjeuner, nous remontâmes en voiture et à 10 heures, nous arrivâmes chez lui. J'avais au doigt la belle bague que Lucrezia m'avait donnée. J'avais fait faire derrière le chaton un champ d'émail portant un caducé avec un seul serpent. Il était entre les deux lettres grecques alpha et oméga. Cette bague fut le sujet du discours tout le long du déjeuner, et l'avocat et Don Francesco s'évertuèrent à deviner l'hiéroglyphe, ce qui divertit beaucoup ma Lucrezia, qui était à part du secret. Nous visitâmes d'abord avec beaucoup d'attention la demeure du futur d'Angélique. C'était un vrai bijou. Ensuite, nous allâmes tous ensemble passer 6 heures à voir les antiquités de Tivoli, et Lucrezia, ayant dit quelque chose en secret à son Francesco, je saisis cet instant pour dire à Angélique que, lorsqu'elle serait mariée, j'irai passer quelques jours de la belle saison avec elle. « Monsieur, me dit-elle, je vous préviens que dès que je serai maîtresse ici, la première personne à qui je fermerai ma porte, ce sera vous. » « Eh bien, je vous suis fort obligée, mademoiselle, de m'avoir averti. Ce qu'il y a de plaisant en ceci, c'est que je pris cette incartade pour une simple déclaration d'amour. J'étais pétrifié. Lucrezia, en s'apercevant de mon état, me tira par le bras en me demandant ce que j'avais. Je le lui dis et voici ce qu'elle me dit à son tour. « Mon ami, mon bonheur ne saurait durer longtemps. Je touche au moment cruel où il faudra que je me sépare de toi. Et dès que je serai parti, impose-toi la tâche de la réduire à reconnaître son erreur. Elle me plaint, venge-moi. » J'ai oublié de dire que, pendant que nous visitions la maison de Don Francesco, il m'arriva de louer une petite chambre charmante qui donnait sur l'orangerie. Le galant propriétaire, m'ayant entendu, vint obligeamment me dire que je l'occuperais. Lucrezia ne fit pas semblant de l'entendre, mais ce fut pour elle le fil d'Ariane. Car, devant visiter ensemble les beautés de Tivoli, nous ne pouvions pas nous promettre de nous trouver un instant tête à tête pendant la journée. J'ai dit que nous fûmes 6 heures à parcourir les beautés de Tivoli, mais je dois avouer ici que, pour ma part, J'y vis fort peu de choses, et ce ne fut que 28 ans plus tard que je connus ce beau lieu dans tous ses détails. Nous rentrâmes vers le soir, rendus de fatigue et mourants de faim. Mais une heure de repos avant souper, un repas de 2 heures, les mets les plus succulents, les vins les plus exquis, surtout l'excellent vin de Tivoli, nous remirent si bien que chacun ne sentit plus que le besoin d'un bon lit pour en jouir selon ses goûts. Personne ne voulant coucher seul, Lucrezia dit qu'elle coucherait avec Angélique dans la chambre qui donnait sur l'orangerie, et que son mari coucherait avec son frère, le jeune abbé, et sa mère avec sa petite sœur. L'arrangement fut trouvé délicieux et Don Francesco, prenant une bougie, vint me conduire dans ma jolie petite chambre, contiguë à celle que devaient occuper les deux sœurs. Et après m'avoir indiqué comment je pouvais m'enfermer, il me souhaita une bonne nuit et me laissa seul. Angélique ignorait que je dusse être son voisin. Mais sans nous être dit un mot, Lucrezia et moi, nous nous étions entendus. L'œil fixé sur le trou de la serrure, je vois entrer les deux aimables sœurs, précédées de l'hôte officieux portant un flambeau, et qui, après leur avoir allumé une lampe de nuit, leur souhaita le bonsoir et s'en alla. Alors, mes deux belles, après s'être enfermées, s'assirent sur un sofa et procédèrent à leur toilette de nuit, qui, dans ce climat heureux, est semblable à celle de notre première mère. Lucrezia, sachant que je l'attendais, dit à sa sœur d'aller se coucher du côté de la fenêtre. Alors la Vierge, ne croyant pas exposer ses charmes à mon œil profane, traversa la chambre toute nue. Lucrezia éteint la lampe et les bougies et va se mettre à côté de sa chaste sœur. Moments heureux que je sais ne plus pouvoir espérer, mais dont la seule mort peut me faire perdre le délicieux souvenir. Je crois que je ne me suis jamais déshabillé plus rapidement que ce soir-là. J'ouvre la porte et je tombe dans les bras de Lucrezia qui dit à sa sœur: C'est mon ange, tais-toi et dors. Quel tableau ravissant j'offrirais ici à mes lecteurs s'il m'était possible de peindre la volupté dans tout ce qu'elle a d'enchanteur. Quels transports amoureux dès le premier instant, quelles douces extases succédèrent jusqu'à ce qu'un délicieux épuisement nous fît céder au pouvoir de Morphée. Les premiers rayons du jour, pénétrant à travers les fentes des jalousies, vinrent nous arracher à ce sommeil réparateur, et, semblables à deux guerriers valeureux qui n'ont suspendu leur coupe pour recommencer le combat, avec plus d'ardeur, nous nous livrâmes de nouveau à toute l'activité de la flamme dont nos sens étaient embrasés. Ô ma Lucrezia, que ton amant est heureux! Mais, tendre ami, prends garde à ta sœur, elle pourrait se tourner et nous voir. Ne crains rien, âme de ma vie, ma sœur est charmante elle-même, elle me plaint. N'est-ce pas, ma chère Angélique, tu m'aimes? Oh, tourne-toi, vois ta sœur heureuse, connais le bonheur qui t'attend quand l'amour t'aura soumise à son doux empire. Angélique, jeune vierge de 17 ans, et qui devait avoir passé une nuit de tantale, ne demandant pas mieux que d'avoir un prétexte de montrer à sa sœur qu'elle lui avait pardonné, se tourna et, en lui donnant 100 baisers, elle lui avoua qu'elle n'avait point fermé l'œil. Pardonne aussi, ma tendre Angélique, pardonne à l'objet qui m'aime et que j'adore, lui dit alors Lucrezia. Pouvoir incompréhensible du Dieu qui soumet tous les êtres. Angélique me hait, dis-je, n'ose. Non, Mais non, je ne vouais pas, me dit cette charmante fille. Embrasse-la, mon amie, me dit Lucrezia en me poussant vers elle et jouissant de la voir entre mes bras languissante et sans mouvement. Mais le sentiment, plus encore que l'amour, me défend de ravir à Lucrezia le témoignage de reconnaissance que je lui devais, et je vole vers elle avec toute l'ardeur d'un premier mouvement, sentant mes feux s'accroître par l'extase dans laquelle je voyais Angélique, qui pour la première fois fut spectatrice de la lutte la plus amoureuse. Lucrezia, mourante, me pria de finir. Mais me trouvant inexorable, elle trompa mon ardeur, et la douce Angélique fit le premier sacrifice à la mère des amours. C'est ainsi, sans doute, que lorsque les dieux habitaient le séjour des mortels, la voluptueuse Arcadie, amoureuse du souffle doux et gracieux du vent d'Occident, ouvrit d'un jour ses bras et devint féconde. C'était le doux Zéphyr. Lucrezia, étonnée, ravie, nous couvrait tour à tour de ses baisers. Angélique, heureuse autant que sa sœur, expira délicieusement entre mes bras pour la troisième fois, et avec tant de feu et de tendresse que je crus savourer le bonheur pour la première fois. Le blond Phébus avait quitté la couche nuptiale, et déjà ses rayons répandaient la lumière sur l'univers. La clarté qui pénétrait à travers les fentes des jalousies me fit sentir que je devais abandonner la place. Et après les plus tendres adieux, je laissai mes deux divinités et me retirai dans mon cabinet. Peu d'instants après, la voix joviale du bon avocat se fit entendre chez mes voisines. Il reprochait à sa femme et à sa belle-sœur de se livrer trop longtemps au repos. Il vint ensuite frapper à ma porte, me menaçant de faire entrer ces dames. Puis il partit pour m'envoyer un coiffeur. Après de nombreuses ablutions et une toilette soignée, je trouvai ma figure présentable et je me présentai stoïquement dans le salon. J'y trouvai les deux aimables sœurs au milieu de la société réunie, et le vermeil de leurs joues m'enchanta. Lucrezia était gaie, libre, son visage exprimait le bonheur. Angélique, fraîche comme la rosée du matin, plus radieuse que de coutume, mais mobile et soigneuse de ne pas me regarder une seule fois en face. M'étant aperçu qu'elle souriait de ce que je ne parvenais pas à la voir en face, je dis malicieusement à sa mère qu'il était dommage qu'elle mît du blanc. Dupe de ce stratagème calomnieux, Angélique m'obligea à lui passer un mouchoir sur le visage. Alors elle fut bien forcée de me regarder. Je lui fis mille excuses et Don Francesco se montra enchanté que la blancheur de sa future eût obtenu un si beau triomphe. Après le déjeuner, nous allâmes nous promener dans le jardin, et me trouvant avec ma Lucrezia, je lui fis de tendres reproches. Mais ne me reprochez rien, me dit-elle, quand je ne mérite que des éloges. J'ai porté la lumière dans l'âme de ma charmante sœur. Je l'ai initiée au plus doux des mystères. Et maintenant, au lieu de me plaindre, elle doit m'envier. Elle doit t'aimer au lieu de te haïr. Et assez malheureuse pour devoir bientôt te quitter, mon ami, je te la laisse, qu'elle me remplace. Oh, Lucrezia, comment l'aimer? Mais n'est-elle pas charmante? Mais sans aucun doute, mais mon amour pour toi me met à l'abri de tout autre amour. D'ailleurs, Don Francesco doit l'occuper désormais tout entière. Je ne voudrais pas être la cause d'un refroidissement entre eux, ni troubler la paix de leur ménage. Au reste, je suis sûr que ta sœur est entièrement différente de toi. et je parierais qu'elle se reproche déjà de s'être laissée séduire par son tempérament. Tout cela peut être, mon ami, mais ce qui me désole, c'est que mon mari compte obtenir la sentence dans le courant de la semaine, et qu'alors les instants du bonheur sont passés pour moi. Cette nouvelle m'attrista, et pour y faire diversion, je m'occupai beaucoup à table du généreux Don Francesco, auquel je promis un épithalame pour ses noces qui devaient se faire au mois de janvier. Nous retournâmes à Rome et Lucrezia fut pendant 3 heures dans mon vis-à-vis sans qu'elle pût s'apercevoir d'aucune altération dans la vivacité de mes sentiments pour elle. À notre arrivée, me sentant fatigué, j'allais descendre à l'hôtel d'Espagne. Comme Lucrezia me l'avait dit, son mari obtint la sentence 3 ou 14 jours après, et il vint m'annoncer son départ pour le surlendemain, en me témoignant beaucoup d'amitié. Je passai les 2 soirées avec Lucrezia, toujours au milieu de la famille, et le jour du départ, voulant lui causer une surprise agréable, je pris les devants et me rendis pour les attendre à l'endroit où je croyais qu'il devait coucher. Mais l'avocat ayant été retenu par divers contretemps et n'ayant pu partir que 4 heures plus tard qu'il ne se l'était proposé, ils n'arrivèrent que le lendemain pour dîner. Après ce repas, nous nous fîmes de pénibles adieux. Ils continuèrent leur chemin et je retournai à Rome.